Les titres du journal.
Les Verts vaudois ont présenté hier à Lausanne un guide sur la biodiversité. Il sera envoyé aux communes pour réconcilier la nature et les zones à forte densification. Les deux pilotes de Solar Impulse ont fait voler un avion électrique à Sion. C'était hier. L'occasion de vanter les mérites d'une aviation sans émission de CO2. Joël Espy a suivi l'envol de Bristel Énergique. Reportage dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis et la négociatrice Livia Le sont à Bruxelles ce mardi. Ils ont rendez-vous avec deux membres influents de la Commission européenne. Notre correspondant à Berne, Serge Jubin, nous dira dans un instant ce qui peut ressortir de cette rencontre. Une page de sport aussi dans cette édition en BMX. La saison de Hugo Ballerini bat son plein. Le Chorg a pu retrouver la compétition après une année marquée par la crise sanitaire et l'absence de courses. Et en fin de journal, nous vous proposerons le deuxième épisode de notre série consacrée au centre de vaccination Covid-19 de Montreux. Isabelle Bertolini est allée à la rencontre des gens qui travaille aujourd'hui, direction le box de vaccination.
Hydratez-vous abondamment, il va faire chaud, la météo en fin de journal. Une édition de midi présentée par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Les Verts vaudois veulent une harmonie entre la nature et les milieux bâtis. Dans ce but, le mouvement écologiste a présenté hier un guide doté d'une dizaine de pages. Le recueil promulgue des conseils et des recommandations pour faire le bon choix en matière de biodiversité. Pour le président des Verts vaudois, Alberto Mocchi, ce guide apporte de véritables précisions utiles pour les administrations.
On sait aujourd'hui qu'il y a une biodiversité qui est relativement forte dans les villes et les villages. Mais aujourd'hui, cette biodiversité, elle est mise à mal par la construction, par la densification, par l'arrivée d'espèces invasives, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir y remédier, enfin, puis protéger la biodiversité et qu'elle puisse se développer aussi en milieu urbain. Et pour ça, il y a des mesures simples qui peuvent se prendre au niveau de la police des constructions, que ce soit en termes de plantation d'arbres, en termes d'espèces aussi qu'on choisit, de végétaux, etc.
Alors que la plupart des communes vaudoises sont en pleine révision de leurs plans généraux d'affectation, le guide a une vocation pédagogique. Séverine Evéco, députée verte au Grand Conseil et co-autrice du guide.
Mettre en valeur la biodiversité dans un règlement de construction, ben, c'est pas très complexe en fait. Il s'agit d'aborder les thèmes les uns après les autres avec arborisation, végétalisation, plantes envahissantes. Il y a plein de chapitres qu'on peut créer dans un règlement et puis pour lequel on peut fixer des exigences qui seront prises ensuite dans le cadre des permis de construire par les différents acteurs qui bâtissent aujourd'hui la ville. Et puis on se retrouvera in fine avec une qualité des aménagements extérieurs améliorée. On pourra avoir des haies, on pourra avoir des toitures végétalisées, on pourra faire attention à l'éclairage public, à l'éclairage privé aussi, et faire en sorte que l'eau percole dans le sol plutôt que dans un bassin de rétention. Ce sont typiquement des mesures qu'on peut prendre très concrètement et qui sont assez simples à mettre en œuvre.
Des propos recueillis par Quentin Frey, le guide est déjà disponible sur le site internet des Verts vaudois. Il sera envoyé aux administrations dès la rentrée d'août. Deux projets nés sur la Riviera reçoivent le soutien de la Fondation UBS. 15 000 francs ont été offerts à l'écrivain Walter Rosli, résident de Montreux. Un soutien pour son roman La mort des amants, qui met en scène un homme et une femme à la recherche de l'endroit et du moment de leur mort. Le collectif Les Rêveries Acoustiques, basé à la Tour de Paix, a reçu quant à lui 6 000 francs, une aide pour son projet Matière et Résonance, né lors d'une résidence de création en 2020. Résidence qui a donné naissance à plusieurs installations sonores. En tout, la Fondation UBS a octroyé plus de 200 000 francs à 16 projets romans. Le soutien le plus important est allé au projet muséal dédié à Charles-Ferdinand Ramu, à Puy. 120 véhicules en excès de vitesse en 1h30, c'est le résultat d'un contrôle effectué ce samedi par la police valaisanne sur l'autoroute A9 à la hauteur de Granges. En tout, ce sont plus de 850 véhicules qui ont été mesurés entre 19h et 20h30. Le plus grand excès de vitesse enregistré, 201 km/h au lieu des 120 autorisés. Le chauffeur étranger a désormais interdiction de conduire sur le territoire suisse. Il a été dénoncé au service de la circulation et de la navigation. La police cantonale valaisanne rappelle que la vitesse est l'une des principales causes d'accidents de la circulation routière. Elle annonce par ailleurs que les contrôles seront renforcés pendant la période estivale.
Vous l'avez peut-être vu à Sion, mais pas entendu.
Le silencieux avion Bristel Énergique a en effet parcouru le ciel de la ville hier. À son bord, les deux pilotes de Solar Impulse, Bertrand Picard et André Borschberg. Joël Espy s'est rendu à l'aéroport militaire juste avant le décollage de cet appareil 100% électrique. Voici son reportage.
Très heureux de pouvoir montrer que l'aviation électrique évolue, avance. Il y a 5 ans, on devait voler séparément sur Solar Impulse, une seule personne à la fois. Maintenant, c'est André et moi ensemble en biplace. Et vous verrez que d'ici 2-3 ans, ça va être 10 personnes, 20 personnes.
L'aventurier Bertrand Piccard en est la preuve. L'aviation électrique connaît un bond fulgurant depuis son tour du monde en avion solaire. 5 ans après l'aventure Solar Impulse, devant des partenaires ébahis et la presse venue en masse à l'aéroport militaire de Sion, l'aventurier est prêt à embarquer dans le cockpit du Bristol Energic. Le soleil radieux n'est pas utile, le biplace fonctionne 100% sur batterie. Il a été conçu par H55, qui est dirigé par André Borschberger, l'autre pilote de Solar Impulse.
Bon, la première chose, c'est qu'il n'y a absolument aucun bruit. On n'a pas besoin de mettre en marche, en fait. Hein. Dès qu'on veut rouler, on met la manette en bas, l'hélice commence à tourner, on n'entend même pas ce qui se passe, il n'y a pas de vibration, pas besoin de contrôler le niveau d'huile. Et quand on décolle, c'est comme voler avec un planeur, mais qui a la capacité de monter, descendre, voler comme un avion. Donc c'est merveilleux.
Mise en route de l'avion électrique sans autre bruit que celui de l'hélice. Décollage sous les applaudissements. Quelques boucles dans les alentours de l'aéroport, avec en toile de fond le château de Tourbillon. On est clairement dans la communication, une com que Bertrand Piccard utilise volontiers pour vanter les mérites d'une aviation sans émissions de CO2.
En fait, vous savez, ce qui est important dans toutes ces nouvelles technologies, c'est que c'est logique autant qu'écologique. Ça protège l'environnement, mais en même temps, c'est des nouvelles opportunités industrielles. Et puis pour les utilisateurs, c'est beaucoup mieux. C'est silencieux, c'est propre, c'est beaucoup plus agréable à voler. Et tout est comme ça. L'énergie solaire aujourd'hui, c'est l'énergie la moins chère du monde. Une maison mieux isolée, elle ne consomme pas d'énergie, mais en même temps, elle est plus agréable à vivre. L'industrie peut mettre en place des nouveaux procédés pour être plus efficient. C'est ça le monde dans lequel on doit aller.
De son côté, André Borschberger pense à tous les projets d'avenir que l'électrique pourra rendre possible.
On aura de la mobilité urbaine avec des avions qui volent comme un hélicoptère pour le décollage, comme un avion avec des ailes pour le vol de croisière. Ça sera moins cher, ça sera plus économique, ça permettra de donner l'accès à d'autres personnes par rapport aux modes de transport actuels. Donc d'un côté, ça adresse la question du CO2, du climat, de la pollution, mais de l'autre, c'est une opportunité extraordinaire pour développer d'autres choses. Le moteur électrique, il peut être soit utilisé seul, comme on l'a ici, mais on pourrait en avoir 10 sur les ailes, 5 de chaque côté. Donc vous pouvez construire un avion qui vole différemment, qui est plus efficient, simplement par l'utilisation du moteur électrique, qui est lui, simple, facile à entretenir, léger, super efficient.
Échéance très concrète, dès 2023, des écoles de pilotage utiliseront l'avion électrique de H55. Une aubaine pour ce projet qui aura coûté plusieurs dizaines de millions de francs.
Et c'était donc le reportage de Joël Espy sur l'avion électrique Bristol Energic qui a survolé Sion hier. La musique est au rendez-vous de la Dolce Riviera. Dès le 23 juillet, The Two, Pascal Auberçon, Jaël, les pornographes, Bastoun ou encore Sandrine Viglino se produiront sur les bords du Léman entre Villeneuve et Vevey. Le but est d'offrir au public des instants culturels et de soutenir les artistes suisses ou étrangers vivant dans notre pays. La délégation vaudoise aux Jeux Olympiques s'est fait tirer le portrait. Il s'agit de l'œuvre d'un jeune dessinateur nyonnais qui a représenté chacun des 14 sportifs envoyés à Tokyo dans le style manga. Pour rappel, 13 athlètes vaudois prendront part au JO entre le 23 juillet et le 8 août, alors qu'une athlète représentera le canton aux épreuves paralympiques du 24 août au 5 septembre. La secrétaire d'État Martina Hirayama a participé hier à la réunion biannuelle des ministres européens de la recherche et de l'innovation à Ljubljana. La Suisse entend ainsi montrer son implication dans le renforcement de l'espace de recherche européen. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre des objectifs du nouvel espace de recherche européen, la coopération dans le domaine, mais aussi le pacte pour la recherche et l'innovation, a indiqué ce matin le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Martina Hirayama a souligné l'importance de la coopération notamment durant la pandémie de coronavirus, pour faire face aux défis. Elle a aussi rappelé que la Suisse est un partenaire fiable et précieux, prêt à entamer des négociations avec l'Union européenne en vue de son association à Horizon Europe. Berne est jusqu'à nouvel ordre considéré comme un pays tiers non associé pour tous les appels à projets de l'année 2021.
Le ministre suisse des Affaires étrangères Ignacio Cassis et la négociatrice Livia Le sont à Bruxelles aujourd'hui.
2 mois après le rejet par le Conseil fédéral de l'accord cadre avec l'Union européenne, ils ont rendez-vous avec les influents membres de la Commission européenne, Josep Borrell et Johannes Hahn. Alors, qu'en attendre? On écoute l'analyse de notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin.
À peu près rien, il s'agit d'un simple échange de vues, reconnaît lui-même le département fédéral des affaires étrangères. Il n'en sortira donc pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'un rendez-vous important, le premier de l'après-rejet de l'accord cadre par le Conseil fédéral. On se regarde désormais en chien de faïence, l'Union européenne a appliqué ce qu'elle avait annoncé en cas de refus de l'accord. Pas d'actualisation de la reconnaissance des produits technologiques médicaux et éviction de la Suisse du plan de recherche Horizon 2027. Le dossier de la recherche est le plus urgent à traiter. La Suisse doit faire un geste, devrait être le déblocage du 1,3 milliard de francs de cohésion destiné aux nouveaux pays de l'Union européenne. Mais Ignacio Cassis n'a pas le chèque avec lui. Il doit retourner devant un Parlement suisse qui risque de ne pas le libérer si facilement. L'UDC est contre et le reste de la droite veut des garanties européennes. Ignacio Cassis risque en outre de découvrir qu'on voit la Suisse avec un nouvel œil à Bruxelles, qu'elle n'est plus forcément un partenaire loyal et fiable, qu'elle n'est qu'une profiteuse. Avec son approche égocentrée de sa relation avec l'Europe, la Suisse risque de découvrir qu'un fossé post-26 mai s'est creusé à Bruxelles.
Et on parle d'économie. Les exportations suisses ont franchi pour la première fois la barre des 60 milliards de francs au deuxième trimestre de cette année. Le dynamisme du commerce extérieur helvétique s'est confirmé pour la quatrième fois consécutive. La balance commerciale a ainsi bouclé sur un excédent de 11,5 milliards de francs, un chiffre jamais enregistré auparavant. Les Neuchâtelois devront voter sur le contournement routier de la H18 à la Chaux-de-Fonds. Le référendum lancé par les opposants à ce projet dont on parle depuis longtemps a recueilli suffisamment de signatures, ont annoncé ces derniers ce matin. La Migros ne vendra pas d'alcool de sitôt. Un avis exprimé aujourd'hui par l'ancien chef des finances de l'enseigne, Mario Bonoran, dans les journaux de CH Média. Selon lui, les délégués de Migros ne donneront pas leur feu vert à la vente d'alcool cet automne. L'ancien chef des finances estime que les valeurs du fondateur du géant Orange sont toujours très fortes. Et si Migros a besoin d'une nouvelle impulsion, il pourrait réaliser jusqu'à 2 milliards de chiffres d'affaires supplémentaires. Les dégâts d'image seraient bien plus grands, selon Mario Bonoran.
Le Conseil des ministres français a adopté un nouveau projet de loi anti-Covid face à la hausse des cas.
Il a ainsi validé l'obligation vaccinale des soignants et étendu l'usage du pass sanitaire. Des incertitudes demeurent toutefois quant à l'obligation d'avoir un pass pour accéder aux centres commerciaux. Le gouvernement devra trouver une formule, alors que le Conseil d'État juge que l'accès aux biens de première nécessité ne doit pas être conditionné. Les amendes ont aussi été baissées selon le vœu de ce même Conseil. Le texte entame aujourd'hui son chemin au Parlement pour une éventuelle adoption en fin de semaine. Et puis en France toujours, le Parti des Républicains réunit aujourd'hui 5 candidats potentiels de la droite à l'élection présidentielle. Objectif, tenter, loin des caméras, de ranimer un esprit, je cite, collectif en amont du scrutin, mais sans le prétendant déjà déclaré. Ex-LR Xavier Bertrand. Selon plusieurs responsables des Républicains, le parti a un devoir d'unité. Personne ne nous pardonnerait la désunion et aucun d'entre nous n'en sortirait indemne, a notamment mis en garde hier Michel Barnier, l'un des possibles prétendants en 2022. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête sur l'espionnage de journalistes français, dont l'infiltration de téléphones par le logiciel Pegasus pour le compte de l'État marocain qui le conteste. C'est ce qui a été révélé dimanche par un consortium de médias et ce qui a donc été annoncé ce matin dans un communiqué. La Belgique rend hommage aujourd'hui aux victimes des inondations d'une ampleur inédite qui ont dévasté la région de Liège dans l'est du pays les 14 et 15 juillet avec une journée de deuil national. Le pays vient d'ailleurs d'observer une minute de silence. C'était à midi pile. La Chine a fustigé aujourd'hui des accusations montées de toutes pièces des États-Unis et de leurs alliés qui accusent Pékin de mener des cyberattaques à grande échelle et d'être derrière un récent piratage de Microsoft. Selon Zhao Lijian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il s'agit d'une campagne de dénigrement et de pression entièrement motivée par des raisons politiques. Les personnes atteintes de maladies psychiatriques ont plus de risque de développer une forme grave de Covid-19 et d'en décéder, selon une étude publiée dans la revue britannique The Lancet Psychiatry. Les auteurs appellent ainsi à vacciner en priorité ces patients. Ce moins bon pronostic pourrait s'expliquer par les obstacles aux soins médicaux rencontrés, des altérations immuno-inflammatoires liées aux troubles psychiatriques eux-mêmes ou encore par l'impact des traitements pris par ces patients, avancent deux des auteurs dans un communiqué publié par la Fondation Fondamentale, réseau de chercheurs sur les maladies maladies psychiatriques. Enfin, sachez que Jeff Bezos, 57 ans, fondateur et ex-PDG d'Amazon, mais aussi l'homme le plus riche de la planète, rejoint aujourd'hui le club des astronautes à bord du premier vol habité pour son entreprise Blue Origin, marquant ainsi une nouvelle étape pour la bourgeonnante industrie du tourisme spatial. La mission intervient 9 jours après que le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, a lui aussi franchi les confins de l'atmosphère terrestre, coiffant au poteau Jeff Bezos dans cette bataille de milliardaires. Une page de sport encore dans ce journal. Le ski alpinisme fera ses premiers pas olympiques au JO d'hiver de Milan 2026. Les membres du CIO l'ont décidé à l'unanimité aujourd'hui. Cette discipline de montagne consiste à gravir et dévaler des itinéraires hors piste avec des pots de phoque. Le pays regorge d'excellents spécialistes. Depuis le début des années 2000, les Suisses et Suissesses ont raflé des dizaines de médailles dans les différentes épreuves de ski alpinisme aux championnats du monde. Le Valaisan Rémi Bonnet fait notamment partie des cadors.
En BMX, la saison d'Hugo Ballerini bat son plein.
Le Chorgue retrouve un semblant de normalité après une année marquée par la crise sanitaire, mais en 2021, la compétition reprend ses droits. Déjà très actif en début d'année, le Valaisan a pris part en juillet au championnat d'Europe en Belgique. Avec une 30e place obtenue, le pilote de 23 ans reste satisfait de sa performance, une performance qui lui permet de gagner en expérience. Le Chablaisien met en effet beaucoup d'énergie dans son activité sportive. Il a tout de même gardé certaines activités annexes lors de son temps libre. Écoutez les précisions d'Hugo Ballerini.
Ouais, tout à fait. Alors, je suis entraîneur pour le club du Chablais, dans le groupe de compétition. C'est moi qui m'occupe de tous les entraînements de BMX. Ça fait partie de ma routine, de mon quotidien aussi. C'est vrai que j'entraîne et ça me permet de partager beaucoup aux plus jeunes. Mais ce qui me permet aussi des fois d'ouvrir les yeux sur certains points d'entraînement, sur certains défauts que des plus jeunes pourraient avoir. Et qu'en fin de compte, je les ai aussi. Cet aspect-là m'apporte quand même quelque chose pour ma carrière. Mais c'est vrai que la carrière de BMX, c'est ça la priorité pour l'instant. Et mon petit shop de BMX, j'ai passablement de temps chez moi aussi, à côté de mes entraînements, un peu dans mes jours de repos et de libre. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire à côté. Ça permet de faire passer un peu de temps, quoi.
L'équilibre semble effectivement parfait. Hugo Ballerini, le mot de la fin, je suis obligé de vous la poser, on est en année olympique. C'est quelque chose qui vous trotte finalement dans un coin de votre tête, d'un jour prendre part à des Olympiades, ça serait un petit peu le rêve?
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est clairement un rêve d'arriver à une Olympiade. Les prochaines sont dans 3 ans. C'est clairement un objectif que si j'ai les moyens de pouvoir y arriver, je vais tout faire pour. En tout cas, je m'entraîne au maximum, j'essaie d'avoir les meilleures structures autour de moi et d'aller au plus haut que je puisse aller, quoi.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. La saison d'Hugo Ballerini se poursuit donc jusqu'à la fin de l'année. Actuellement en camp d'entraînement en Allemagne, il devrait prendre part à des étapes de Coupe d'Europe et de Coupe du Monde d'ici le mois de septembre. Poursuit aujourd'hui notre incursion au sein du centre de vaccination de Montreux, une série de reportages qui nous permettra tout au long de la semaine de partir à la rencontre de ceux qui œuvrent pour la vaccination contre le Covid-19 de la population de la Riviera et du Chablais vaudois, et cela à moins de 2 semaines de la fermeture du centre. Aujourd'hui, direction le box de vaccination pour découvrir le quotidien de Dario Carbonara.
Votre bras gauche du coup, si vous voulez. Merci beaucoup. Un tout petit peu plus haut. Et je vous laisse aussi bien détendre le bras, d'accord? Je pique. Ça va?
Oui, ça va.
Et j'enjette. Je m'appelle Dario Carbonara. Ici, au centre de vaccination à Montreux, je suis superviseur. Depuis maintenant un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà. J'ai fini mon armée, puis j'ai postulé ici. Et puis ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est fini. Vous vous sentez comment, madame?
Très bien, merci.
Très bien, génial.
Très senti. Si mon fils, il pleure pas quand il prend...
Comme je suis superviseur, normalement le rôle, il est de superviser l'équipe, mais j'aime aussi beaucoup vacciner les patients parce que j'aime le contact avec eux, ça se passe plutôt bien. Apprendre à connaître aussi des nouvelles personnes, voir un petit peu d'autres choses que superviser l'équipe, c'est super aussi, quoi.
C'est quoi le rôle du vaccinateur ou, j'ai entendu dire dans les couloirs qu'ici on disait piqueur?
Pour moi, le rôle du piqueur a beaucoup d'importance, dans le sens que ils vont poser des questions aux patients, s'il prend des traitements, comment est-ce qu'il se sent, s'il a des allergies particulières. Enfin, vraiment un accompagnement total. Il n'y a pas que le geste qui compte, c'est vraiment un accompagnement total de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont stressés et autres, quoi.
Oui. J'ai déjà été malade, donc c'est ma première prestation.
Ah, vous avez le Covid en janvier, c'est
oui,
ça?
Tout à fait.
Ah, d'accord, je vois sur la carte.
Je suis 6 mois après, donc je suis malade.
Voilà, donc vous avez bien raison de vous faire vacciner. Est-ce que vous êtes sous anticoagulant, monsieur?
Non.
D'accord. Alors, dans la vie, j'ai fait ma formation d'ASCC, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est le CFC de soignant, si vous voulez bien. C'est une formation de 3 ans qui est assez complète. Et du coup, par la suite, j'aimerais faire l'école d'infirmier.
Du coup, vous êtes dans le médical déjà. Il y avait quelque chose qui vous attirait dans ce milieu-là. C'est ça qui vous a attiré ici au centre de vaccination?
Oui, alors j'ai toujours aimé le médical. Donc voilà, parce que je trouve que c'est autant utile dans la vie professionnelle que dans la vie en général. Donc c'est toujours très, très intéressant aussi. Le fait aussi de l'accompagnement des patients, c'est ce que je préfère dans mon métier, quoi.
Pourquoi c'est important pour vous de vous engager ici au centre de vaccination?
Parce que c'est une cause pour laquelle je crois. Je crois en l'efficacité du vaccin, je crois à l'immunité commune de chaque personne. Si plus de monde vient de se faire vacciner, on pourra gentiment, je pense, réduire les restrictions. Donc voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est important que chaque personne vienne se faire vacciner, quoi.
Quand je vous dis qu'il y a environ 75 000 personnes qui s'est fait vacciner ici à Montreux, qu'est-ce que ça vous fait?
Ouais, je trouve que c'est énorme, quoi. Ça fait plaisir.
Mais vous vous demandez un peu combien vous en avez vacciné sur ce chiffre énorme?
Oula, ouais, c'est vrai que je me pose quand même la question. Mais ouais, je pense que comme je suis là depuis un mois et demi, je pense environ dans les 700 ou 800, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Je ne suis pas trop sûr du chiffre exact.
Oui, un chiffre qui importe peu. C'était un reportage réalisé par Isabelle Bertolini. Après l'injection, direction la salle d'attente, ce sera dans le journal de midi de demain.
Et on retrouve l'info à 16h. Merci beaucoup Yves, bel après-midi.
Mais à vous aussi.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Store Chablais, partenaire Stobag pour vos protections solaires et portes de garage. Storechablais.ch.
Eh oui, on va pas s'étendre des 1000 et des 100 en termes de minutes, puisqu'il va faire beau, tout simplement. Hein. C'est très simple et vite dit, et ça fait plaisir en plus à écouter et à le dire. Il va faire 28 degrés en pleine au maximum et 24 à 1000 mètres. La météo à 6 jours sur radiochablais.ch.